France Inter.
Normalienne, énarque et haute fonctionnaire passée par l'Élysée et le Conseil d'État, Constance Rivière est aujourd'hui directrice générale du Palais de la Porte Dorée qui abrite le musée de l'histoire de l'immigration. Aussi bien engagée pour le vote des étrangers que pour le mariage pour tous, elle a coécrit avec Papendia le rapport sur la diversité à l'Opéra de Paris lorsqu'elle était secrétaire générale du Défenseur des droits. Entre 2012 et 2017, elle fut membre du cabinet de François Hollande en tant que conseillère spéciale en charge de la culture et de la citoyenneté. Après avoir été directrice adjointe de son cabinet et conseillère en charge des institutions de la société et des libertés publiques. Auteur de 3 livres parus chez Stock, Une fille sans histoire, La maison des solitudes et La vie des ombres, essai littéraire consacré au documentariste américain Frederick Wiseman. Créatrice du réseau des musées engagés, elle donne à voir en ce moment et jusqu'au 17 août l'exposition Banlieue chérie au Palais de la Porte Dorée, une immersion artistique au cœur de l'histoire des banlieues, sous-titrée L'expo qui recadre les clichés et dont la commissaire est l'espagnole Susana Gallego Cuesta, qui dirige actuellement le musée des Beaux-Arts de Nancy. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Constance Rivière.
Bonsoir Eva Bester.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmée ?
La dernière chose qui m'a enthousiasmée, c'est une soirée que j'ai passée dans un lieu qui s'appelle le Consulat Voltaire, qui était une sorte de stand-up de poésie. 200 personnes, c'était complet, des jeunes assis par terre dans des canapés à écouter des poètes lire de la poésie contemporaine. Et moi qui ne lis pas de poésie, j'ai été bouleversée aux larmes par l'ambiance, par le lieu et puis par... un poème très court de Stéphane Bataillon qui me hante depuis quelques jours. Il dit « Je sais, tu aurais pu devenir quelqu'un d'autre et lui, l'autre, c'est peut-être bien de toi dont il rêvait. » Voilà.
Je laisse un silence parce que c'est beau. Est-ce que vous nagez toujours ?
Je nage au moins 3 fois par semaine, oui.
C'est de là que viennent la plupart de vos idées.
En tout cas, c'est dans la natation que j'ai l'impression de trouver une forme de liberté qui me permet de m'évader du quotidien. Il y a une sorte de régularité comme ça, des mouvements, et puis le corps pèse plus rien, quoi, ça fait du bien.
Oui. Dans le palais de la Porte Dorée, il y a aussi l'aquarium tropical.
Oui, c'est un autre lieu où je peux m'évader le soir quand il n'y a plus personne, dans le silence, lire au milieu des poissons.
Un petit mot dessus, parce que c'est un endroit un peu circulaire, avec des poissons de toutes les zones géographiques du monde.
Ouais, c'est un aquarium tropical qui en fait a une histoire ancienne, puisque c'est la seule chose qui subsiste du Palais de la Porte Dorée à sa création en 1931. Il aura bientôt un siècle, du coup. Et c'est un aquarium qui a vécu... des époques extrêmement différentes. Il a été conçu pour donner envie aux Français de partir dans les colonies pour pêcher et piller les ressources halieutiques de ce qu'étaient à l'époque les colonies françaises. Et aujourd'hui, on essaye d'en faire un lieu de sensibilisation à la préservation de la biodiversité, mais aussi un lieu de sauvegarde d'espèces en danger. Il y a quelques semaines, j'étais à Madagascar pour essayer de travailler un projet pour sauver les poissons d'eau douce de Madagascar. 75% des poissons d'eau douce de Madagascar sont en danger critique d'extinction. Ça fait aussi partie des missions du Palais de la Porte Dorée.
Là, vous avez parlé des colonies. C'est vrai que le lieu a été construit à l'occasion de l'exposition coloniale internationale de 1931. Il a été voulu par Jacques Chirac en 2002 et il a ouvert en 2014 sous votre impulsion.
Alors non, le lieu a ouvert plus tôt. En fait, il a été voulu par Jacques Chirac. Il a été créé officiellement en 2004. L'annonce de sa création a été faite. Et puis ensuite, il a ouvert en 2007. En revanche, il n'a pas été inauguré par les pouvoirs publics à l'époque pour des raisons politiques. C'était le moment où était créé le ministère de l'Identité nationale. Tout le conseil scientifique a démissionné. Nicolas Sarkozy en a pris ombrage et n'est pas venu l'inaugurer. Et il a fallu attendre 2014 pour qu'il soit... officiellement, en quelque sorte, inauguré comme musée national. Mais il a vécu pendant toutes ces années et il a commencé à constituer une collection formidable sur laquelle on vit aujourd'hui.
C'est un palais de style art déco.
Tout à fait. C'est un palais qui a une histoire quand même assez incroyable parce qu'il est créé en 1931 pour l'exposition coloniale internationale comme un monument de propagande coloniale. Et aujourd'hui, il est un lieu qui abrite l'histoire de l'immigration et qui tente de comprendre tous les sujets liés au post-colonial et de déconstruire un certain nombre de préjugés, mais aussi de comprendre comment notre droit, pendant très longtemps, a été construit sur des formes de discrimination qui persistent encore aujourd'hui.
Est-ce que vous auriez quelque chose à nous dire sur ce palais que peu de gens savent ?
Oula, c'est difficile comme question.
Je sais pas, une pièce secrète, une anecdote.
Oui, il y a une pièce secrète dans le palais, tout à fait.
Ah oui.
Y a déjà un bureau historique absolument magnifique, un espèce de chef-d'œuvre art déco qu'on appelle soit le salon Asie, soit le salon Lyotet. Et dans ce bureau qu'on essaye de faire restaurer, nous avons besoin d'aide, hein, si jamais des grands mécènes nous écoutent, pour que le public puisse le visiter. Si le public pouvait rentrer dedans, il pourrait pousser une porte. Et derrière cette porte, il y a la salle de bain du maréchal Lyotet dans son état d'origine.
C'est-à-dire avec le savon craquelé et tout ça.
Alors, il n'y a plus le savon.
Quelqu'un a fait le ménage.
Mais il y a encore le lavabo, la douche et le sol dans un état qui n'est pas complètement conforme aux standards habituels.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Je suis avec la directrice générale du Palais de la Porte Dorée, Constance Rivière. On va parler de l'exposition qu'on peut voir en ce moment, mais juste avant, j'aimerais qu'on fasse un peu plus connaissance, enfin, qu'on parle un peu plus de vos engagements. Les 28 et 29 novembre 2023, plus de 20 musées d'art, d'histoire, de société ou de mémoire présents sur l'ensemble du territoire national se sont réunis pour constituer les fondements d'un réseau de musées engagés sous votre impulsion. De quoi s'agit-il et quelle est pour vous l'importance du collectif ?
Alors, le point de départ de ce réseau, c'est une annonce qu'a fait la première ministre, qui était à l'époque Elisabeth Borne, de dire chaque élève dans sa scolarité doit aller visiter un lieu de mémoire ou un lieu d'histoire ou un musée pour pouvoir comprendre d'où on vient et grandir en quelque sorte comme citoyen. Et on s'est dit à quelques-uns, avec Paul Salmona, le directeur du MAJ, avec le MUCEM, avec aussi d'autres musées, musée dauphinois, le musée d'Aquitaine, le musée de Rennes, enfin, plein de musées, on s'est dit, mais en fait, on est effectivement des lieux qui sont des lieux de compréhension des enjeux du monde, d'apprentissage, de déconstruction des stéréotypes, des préjugés, de lutte contre les racismes, contre l'antisémitisme. Et donc, oui, accueillons les 800 000 élèves qui doivent l'être chaque année et essayons de travailler ensemble pour le faire le mieux possible. Et puis, on s'est réunis. D'abord pour ça, et puis ensuite on s'est dit qu'on partageait plein d'engagements communs et on a continué à échanger, à se voir. Aujourd'hui, on est une cinquantaine.
Pour vous, les musées publics ont non seulement un rôle social, mais aussi une responsabilité dans la formation des consciences citoyennes. Comment ? Est-ce que vous l'avez vu à l'œuvre, ça ?
Oui, je crois que ce qu'on ne perçoit pas forcément toujours, c'est à quel point les musées contribuent à écrire une page du récit national et de la compréhension du monde dans lequel on est. Quand le Louvre est créé, le premier grand musée, il est déjà créé pour essayer de contribuer à la formation citoyenne, mais il l'est de manière extrêmement verticale, avec un récit qui doit être appris par cœur. Et là où je pense que le musée a un rôle à jouer, peut-être à côté de l'école ou à côté d'autres institutions de connaissance, c'est d'être un lieu où on devient citoyen en participant et en partageant ce savoir, en posant des questions, en étant un espace de liberté, parce que c'est aussi ça, devenir citoyen, c'est être libre dans sa compréhension du monde.
Si je veux être une, comme je dis, une artiste qui est dans le temps, qui n'est pas outside, qui est dans le temps, dans notre temps contemporain. Si je veux être une artiste contemporaine, naturellement, qu'il y a beaucoup de tabous que je dois briser. Et si je suis une femme artiste, il y en a encore plus. Il y a encore plus pour se battre. Il y a les thèmes qui ne sont pas dans l'histoire d'art, comme l'accouchement, par exemple, il n'est pas.
Le viol, qui est très présent à l'intérieur de votre rétrospective.
Le viol, où on n'est pas sûr s'il existe ou pas, et tous ces thèmes, moi, il faut que je me batte aussi pour l'histoire d'art où la moitié de l'humanité est dedans. Et les thèmes, c'est pas comment c'est fait, c'est les thèmes dans ce cas-là. Moi, j'aime beaucoup l'art des hommes. Moi, j'aime l'histoire d'art. J'aime beaucoup, 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 beaucoup d'artistes. Mais il y a des thèmes qui manquent complètement, et ça, je trouve ahurissant.
Une archive qui s'inscrit bien dans la continuité de ce dont on parlait, Constance Rivière, c'est l'artiste Myriam Khan en 2023 au micro de Laure Adler. Elle avait fait une exposition au Palais de Tokyo et vous avez initié et orchestré une tribune de chefs d'établissement pour soutenir le Palais de Tokyo au moment de l'affaire polémique autour de son exposition. C'est une peintre suisse et vous dites... Les artistes, dans la tribune, vous écrivez « Les artistes ne devraient jamais avoir peur de choquer. Un musée ne saurait se réduire à un lieu présentant des œuvres destinées à reposer le regard, divertir et instagrammer. »
Bah oui, je crois que c'est exactement ce que je pense. Je pense que la responsabilité des établissements culturels, c'est d'accepter d'être des lieux où on est dérangé. Un artiste, c'est quelqu'un qui vient forcément... vous forcez à décaler le regard à un endroit que vous n'aviez pas imaginé. Alors déjà, voir autrement, c'est toujours dérangeant, mais parfois, on a besoin d'être choqué aussi pour pouvoir comprendre un certain nombre de sujets. Et puis là, elle dit une chose très forte. Elle parle, c'est une philosophe, Nadia Yalakitsukidi, qui parle des mauvais sujets de l'histoire de l'art. Alors nous, on les a tous, hein, les mauvais sujets de l'histoire de l'art, les immigrés, les questions postcoloniales, le genre, enfin, tous les sujets qui sont considérés comme des sujets non nobles. Or, c'est des sujets qui sont au cœur de nos préoccupations, à la fois de nos préoccupations intimes, je crois, mais aussi de nos préoccupations collectives.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue ce soir au Palais de la Porte Dorée pour cette rencontre qui s'intitule « Une France sans immigration, qui prendrait soin de nous ?» Cette rencontre s'inscrit dans un rendez-vous que nous proposons tous les mercredis de la Porte Dorée, avec chaque semaine des propositions autour du cinéma, de la littérature ou de débats de société sur les questions migratoires ou environnementales.
En février dernier, Constance Rivière, vous avez lancé des soirées de politique fiction autour d'une France sans immigration. On entend un extrait de l'une d'elles présentée par la journaliste Catherine Olué. Vous dites « L'art est de nature xénophile ».
Tout à fait. En réalité, ces soirées, maintenant on fait ça tous les mercredis soirs, des soirées autour de sujets de société. On en a eu l'idée au moment où il y a eu la dissolution et où, comme dans tous les mouvements, moments politiques un peu durs, l'immigration devient une espèce de truc qui remonte, là, comme la peur qu'on vient agiter devant les gens. Et nous, on a fait une soirée sur immigration, de quoi avons-nous peur ? En 20 minutes, les 400 places étaient prises. Donc on s'est dit... Il y a une attente de pouvoir aborder ces sujets-là autrement. Donc là, on a lancé ce cycle-là. À quoi ressemblerait la France sans immigration ? Là, c'était sur qui prendrait soin de nous. Mais on a fait aussi comment mangerions-nous du pain ou serions-nous vraiment en sécurité ? Et je pense que déjà, poser la question autrement, c'est permettre de regarder le sujet peut-être avec un peu d'humour, mais aussi avec un peu d'humanité et de bienveillance.
Mais je pense que si un jour on fait une grève des immigrés... Une seule journée, tout le monde va les adorer parce qu'on va se rendre compte que le pays ne peut pas tourner sans eux.
Oui, mais en réalité, on le sait déjà. Il y a eu une étude de Terra Nova qui vient de sortir, qui montre que les Français n'ont pas tant de problèmes que ça avec l'immigration quand elle est liée au travail. Donc il y a cette espèce de distorsion complètement folle et instrumentalisée politiquement entre une perception macro de l'immigration dont on ne sait pas à quoi elle correspondrait qui fait peur. Et dès qu'on se rapproche et qu'on parle de personnes qu'on connaît dans la famille, au travail ou de la manière dont ça peut nous aider à faire de la France un grand pays sur le plan économique et diplomatique, bah là, tout d'un coup, les gens trouvent que c'est pas si mal, quoi.
Il y a quelque chose de frappant, c'est vous dites qu'il y a un déni d'immigration en France qui nous empêche d'avoir une fierté de ce « nous », entre guillemets, qui pourtant serait tellement plus puissant. Et j'ai pensé aux États-Unis, je parle hors Trump, bien entendu, où justement elle est érigée en quelque chose d'enrichissant, en fierté. Moi, c'est ce que j'ai ressenti en allant justement au musée de l'histoire de l'immigration. C'est ce que j'ai trouvé très beau, c'est qu'il y avait absolument tous les publics et je sentais une beauté, une fierté. Ça réconciliait avec absolument toutes les origines. Ça a l'air mièvre, ce que je dis, mais c'est du premier degré et c'est rare que je sois au premier degré. Je le dis parce que je trouve ça beau et rare et précieux.
Bah, c'est formidable que vous l'ayez ressenti, parce que c'est exactement ce qu'on a envie de faire. On l'a appelé d'ailleurs le musée d'une histoire commune. On conçoit notre rôle comme un rôle de tisserand ou de réparateur des récits brisés. Aux États-Unis, il y a une immigration qui est constitutive et que tout le monde connaît comme faisant partie de l'histoire américaine. D'ailleurs, dans leur musée d'immigration à Washington, on arrive et il y a écrit en lettres, en néons lumineux, « How did we become us ?»« Comment sommes-nous devenus nous ?» Et en France, ça devrait être la part cachée de notre histoire. Alors qu'en 1931, la part des immigrés dans la population française est plus importante qu'aux États-Unis, et qu'on est en Europe un pays qui a cette histoire singulière d'être un pays très largement constitué par les différentes vagues d'immigration.
Entre Saint-Ouen et Clignancourt, en rêve, je vais faire un petit tour sur la zone. Les yeux clos, je revois mon passé, le ciel si doux, les durs pavés, l'herbe jaune. Et pataugeant dans les ruisseaux, des hommes de gosse, moitié poule, moitié faune. L'odeur des fruits et des lilas, en frissonnant, je retrouve tout ça sur la zone.
Entre Saint-Ouen et Clignancourt d'Edith Piaf, qu'on peut retrouver dans la playlist de 5 heures disponible sur toutes les plateformes et composée pour l'exposition Banlieue Chérie au Musée d'Histoire de l'Immigration à Paris jusqu'au 17 août, sous le commissariat de l'Espagnole Susana Gallego Cuesta, qui dirige actuellement le Musée des Beaux-Arts de Nancy. Un mot sur elle, Constance Rivière ?
Alors ça a été vraiment une rencontre formidable, moi je la connaissais pas du tout, et on cherchait quelqu'un pour être commissaire de l'exposition Banlieue Chérie. Et tous les noms qu'on me proposait étaient des noms d'hommes ayant déjà une certaine reconnaissance dans le commissariat. Moi, je dis, mais on ne peut pas juste trouver une idée de femme qui apporterait un regard nouveau sur les banlieues. Et quelqu'un a dit, bah, y a cette femme qui dirige le Palais des Beaux-Arts à Nancy, qui a créé le Festival des Cultures Urbaines. C'est quasiment la seule conservatrice immigrée espagnole. Va la voir. Et je suis allée la rencontrer à Nancy. J'ai pris le train le lendemain, je crois. Et... elle m'a dit, ce qui a pu d'ailleurs déranger certains, mais moi, en fait, les banlieues, ça a toujours été un mystère. Les banlieues, c'est un truc tellement français. Moi, en Espagne, il y a la ville haute, la ville basse, mais la banlieue comme espace politique, ça, je crois qu'il n'y a que vous, les Français, pour inventer ça. Et je me suis dit, en fait, quelqu'un qui pense tout de suite à ça, il va nous imaginer, elle va, en l'occurrence, nous imaginer une autre exposition. Et puis l'autre chose, c'est qu'elle a dit, mais par contre, je ne vais pas la faire seule, je vais la faire avec des gens qui vivent, qui créent en banlieue depuis des années. Et donc, c'est toute une équipe, en fait, qui a conçu l'exposition.
Et on apprend d'ailleurs que le mot banlieue installé depuis le Moyen-Âge dans la langue française ne prend véritablement son sens géographique de périphérie urbaine qu'au XVIIIe siècle.
Moi, je m'étais trouvé pour la pratique un petit appartement au bord de la zone, d'où j'apercevais bien des glacis. Et l'ouvrier, qui est toujours dessus, à regarder rien, avec son bras dans un gros coton blanc, blessé du travail, qui sait plus quoi faire et quoi penser, et qui n'a pas assez pour aller boire et se remplir la conscience. Tout le monde toussait dans ma rue. Ça occupe. Pour voir le soleil, faut monter au moins jusqu'au Sacré-Cœur, à cause des fumées. De là alors, c'est un beau point de vue. On se rend bien compte que dans le fond de la plaine, c'était nous, et les maisons où on demeurait. Mais quand on les cherche en détail, on ne les retrouve pas. Même la sienne. Tellement que c'est laid. Et pareillement laid, tout ce qu'on voit.
Lecture d'un extrait de Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline sur Drancy, lu par Pierre Brasseur en 1963. Constance Rivière, on ébauche un peu l'histoire des banlieues en France. La littérature s'en est emparée à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, avec Victor Hugo et Émile Zola notamment, et puis Céline dans les années 1930. C'est assez péjoratif tout de même quand la littérature s'en empare.
Alors c'est péjoratif et en même temps c'est parfois avec une humanité et une douceur très forte. Victor Hugo, il parle des banlieues comme d'une sorte de monde amphibie où c'est la fin de la nature et le commencement d'autre chose, le commencement des murmures humains. Et il dit que c'est d'ailleurs là que ça devient passionnant. Et puis Émile Zola, il va pencher son regard aussi sur les banlieues parce que la réalité, c'est que le monde social dans lequel on vit, il est extrêmement fragmenté, il est traversé par un sentiment d'étrangeté et d'incompréhension. Et les écrivains, ce qu'ils apportent, c'est qu'ils vont apporter leur regard et leur plume pour retisser en réalité une compréhension de mondes sociaux qui nous sont étranges.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Banlieue Nord de Daniel Balavoine. C'est dans Starmania qu'on peut entendre ce morceau. Je suis avec la directrice générale du Palais de la Porte Dorée, Constance Rivière. On évoque l'histoire des banlieues et on parlait de l'aspect péjoratif qui est souvent souligné dans les arts, mais il y a aussi les guinguettes, les destinations pour les promenades agréables, les loisirs le week-end. Il y a cet aspect-là aussi.
Les banlieues, d'abord, c'est un lieu où des gens vivent qui est comme tous les lieux traversés par des dynamiques contraires. Donc c'est à la même époque à la fois la zone où s'installent des bidonvilles et en même temps les bals des barrières et les guinguettes où les Parisiens, en l'occurrence pour ce qui est de l'Île-de-France, vont le week-end. Et l'exposition Banlieue Chérie, elle veut être à la croisée de ces deux choses-là. On commence, on a à la fois Argenteuil par Monet et Gennevilliers par Ryan Mercidi, avec ce béton en quelque sorte qui est venu s'installer dans ces paysages extrêmement bucoliques. C'est la banlieue qui était verte, qui devient noire, qui devient rouge. Et toutes ces couleurs-là, finalement, chez nous, ça devient rose.
Et tout à l'heure, vous avez parlé d'Émile Zola. Écoutons justement un extrait de son texte « La banlieue », publié en 1878.
« Je ne connais rien de si laid ni de plus sinistre que cette première zone entourant Paris. Toute grande ville se fait ainsi une ceinture de ruines. À mesure que les pavés avancent, la campagne recule, et il y a entre les rues qui finissent et l'herbe qui commence, une région ravagée, une nature massacrée dont les quartiers nouveaux n'ont pas encore caché les plaies. »
Extrait de La banlieue d'Émile Zola, publié en 1878 et enregistré cette semaine par notre collaborateur Franck Olivard. Là, c'était un passage un peu lyrique, pas forcément positif, mais il décrit aussi la campagne et la verdure dans laquelle les Parisiens vont profiter de promenades. En fait, c'est au milieu du 20e que l'urbanisation rapide commence à poser problème, Constance Rivière.
En tout cas, c'est au milieu du XXe, après la Seconde Guerre mondiale, que l'urbanisation extrêmement rapide constitue ce qu'on appelle en fait aujourd'hui dans l'imaginaire général la banlieue pensée telle qu'un espace extrêmement urbain, avec des grands ensembles, avec des immeubles, des tours très hautes, et cette vie extrêmement dense qui se constitue, qui à certains égards est une transformation par rapport à des bidonvilles très précaires qui permettent d'aller dans des habitats salubres déjà, mais qui va aussi assez rapidement être délaissée par les pouvoirs publics et se dégrader très rapidement. Et c'est ça aussi évidemment qu'on montre dans l'exposition.
L'exposition en effet ne fait pas l'impasse sur le mal-être des banlieues, ce qu'on appelait notamment le mal-être des banlieues, par exemple, dans les années 80. Je pense au quartier des Minguettes à Vénissieux, dans la métropole de Lyon, qui s'était embrasé. Et elle montre aussi, évidemment, la richesse des banlieues. Mais pour le hip-hop, je développe la Seine-Saint-Denis. C'est de la bombe, bébé. Et si t'as le pédigré, ça s'en connaît au bébé. NTM, Seine-Saint-Denis Style, qui est aussi dans la playlist composée pour accompagner l'exposition. Constance Rivière, si je vous dis Red Star Football Club, U13, féminine, Stade Bauer, Saint-Ouen, et photographe diplômé de l'école Courtrage-Mé, qu'est-ce que vous me racontez ?
Alors, c'est un club, le Red Star, qui est installé à Saint-Ouen depuis près d'un siècle, qui a une histoire absolument incroyable parce qu'elle est complètement insérée dans ce territoire de banlieue et c'est devenu un club assez mythique, iconique. Ils viennent de se maintenir en Ligue 2, on les félicite. Et c'était important pour nous de pouvoir montrer aussi toute la sociabilité qui naît autour de la musique, vous l'avez montré, mais autour du sport et là singulièrement du football. Et le Red Star a tellement été contents de pouvoir être dans l'exposition qu'ils ont voulu aller plus loin encore et pour leur dernier match, les joueurs ont porté un maillot banlieue chérie. Je pense que c'est d'ailleurs à ça qu'ils doivent leur maintien en Ligue 2, évidemment.
Bah, évidemment.
Tu crois qu'ils peuvent vraiment décider de démolir ?
Je sais pas, Yuri.
Faudrait qu'on refasse le LEC, puis la sécu.
Si tout est nickel, ils pourront pas la détruire.
Mais attends, mais c'est pas comme ça qu'on répare un ascenseur.
Je sais très bien ce que je fais.
On se connaît depuis tout petit, tu me factures pour 30 euros.
C'est pour réparer la cité, c'est pour nous en plus. Margarine forever.
T'as le vertige. Gagarine, il n'a pas le vertige.
Et dans l'exposition, Constance Rivière, on voit une série d'immeubles qui explosent, enfin implosent. C'est la série des implosions de Mathieu Pernot. Et alors, j'ai tout de suite pensé au film Gagarine de Fanny Liattard et Jérémy Trouille sur la cité Gagarine à Ivry-sur-Seine. Et justement, le film est en face.
Oui, vous voyez, ça m'émeut beaucoup d'entendre cet extrait parce que c'est exactement contre ce type de disparition qu'on essaye de lutter au musée. C'est-à-dire... Dans les banlieues, mais dans l'histoire de l'immigration en général, on passe son temps à effacer les traces, à faire comme si on devait oublier qu'il y a un passé, une identité, un attachement à une histoire. Et c'est ça aussi que nous a montré le travail sur les banlieues, c'est l'importance des vies intimes, c'est des gens qui... C'est là où ils ont vécu. On n'aime pas, on trouve que ça pourrait être mieux autrement, mais... À un moment, les pouvoirs publics disent « c'est pas grave, on fait table rase et vous allez voir, ça sera mieux après ». Mais qui sait ce qui sera mieux après par rapport à tous les souvenirs qu'on a pu laisser dans un endroit ?
Et c'est une exposition aussi où il y a de la tendresse et de la nostalgie en parlant de souvenirs. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot, par exemple, de Neila Chermakishti, qui a fait le tableau « Chorba glacée ».
Alors, c'est une dessinatrice qui, elle, travaille beaucoup sur les intérieurs, les ambiances, les souvenirs de famille. Et il y a tout un ensemble dans l'exposition entre ses œuvres, les œuvres d'une artiste qui s'appelle Femina, les œuvres d'une très jeune artiste aussi qui s'appelle Yanma Fofana, qui fait des tableaux magnifiques, dont un, le doudou bleu avec une famille, avec le garçon qui enlace cette grosse peluche bleue. Et toutes ces artistes, parce que c'est des femmes, elles montrent à quel point on est dans des lieux de vie extrêmement sensibles. C'est la grâce du quotidien qui apparaît à cet endroit-là.
Bah d'ailleurs, des lieux de vie, il y en a dans l'exposition. C'est-à-dire, en fait, ce qui m'a frappée, c'est que c'est un endroit où on peut traîner. J'ai vu plein de gens qui traînaient. Il y a un studio de musique où on peut aller écouter de la musique. Il y a plein d'endroits pour s'asseoir. Et il y a même des reconstitutions d'intérieur où on peut occuper les canapés, être à côté de peluches, jouer aux cartes. Vous avez conçu l'exposition aussi pour qu'on vive dedans.
Oui, c'est ça. C'est une exposition qui se voit et une exposition qui se vit à plusieurs moments. Donc il y a une installation artistique d'une artiste qui s'appelle Anne-Laure Boyer, qui est la reconstitution d'un immeuble justement avant destruction, avec des photographies et puis des objets qui lui ont été donnés par les personnes qui vivaient dans les appartements, qui permet de retrouver un peu l'ambiance des intérieurs dans la banlieue de Bordelais, dans la banlieue bordelaise. Il y a un bureau de presse dans lequel on peut se poser pour feuilleter une presse qui n'est pas celle qu'on a l'habitude forcément de lire. Il y a un studio de musique où parfois les gens dansent et comme on a les bureaux en dessous, on entend quand ça bouge. Et puis, on a créé un espace pour les enfants au départ avec des Legos pour créer leur banlieue idéale, et je dois dire qu'il est systématiquement occupé par des adultes qui retrouvent la joie de faire des Legos et de laisser des petits mots sur leur banlieue rêvée. Donc c'est une exposition dont les gens s'emparent et il n'y a rien qui nous rend plus heureux.
Ça c'est très joli parce que vous les avez affichés sur le mur, les petits mots. C'est dans ma banlieue rêvée, il y aurait. Les gens formulent un souhait.
Exactement, et là, en 3 semaines, on a quasiment 2000 petits mots qui ont été laissés sur la banlieue rêvée. On a regardé s'il y a plus de 200 villes, parce que les gens mettent de quelle ville ils sont originaires avant d'écrire. Et ils racontent vraiment ce dont ils rêvent pour leur banlieue. Donc peut-être qu'on pourra, pour essayer de financer la restauration de nos salons historiques, le mettre aux enchères auprès de candidats aux municipales dans des villes de banlieue.
Eh bien oui, après Edith Piaf et NTM, Berrurier Noir, Petit Agité, qui est aussi dans la playlist, qui est formidable, vraiment, j'encourage les auditeurs à aller jeter une oreille à cette playlist. Parlons un peu de contestation, mais dans son aspect positif. Par exemple, La Marche, Constance Rivière.
Alors, les contestations, c'est toujours à la fois de la résistance, de la lutte et du positif. La marche, oui, mais plein d'autres mouvements de contestation qui sont nés en banlieue. La marche, c'est 1983, c'est la marche pour l'égalité et contre le racisme. Des jeunes qui, après la récurrence de violences racistes, violences policières aussi, décident de traverser la France pour essayer de proposer... De lutter contre le racisme, de proposer un autre récit, et puis aussi de lutter pour les droits des immigrés, pour des titres de résident plus longs. Et ça avait suscité à l'époque un véritable enthousiasme, et parfois on se dit qu'on aurait besoin de retrouver ces moments où tous ensemble, on a envie d'un pays plus apaisé, quoi.
En tout cas, on découvre plein de mouvements citoyens actuels en banlieue. On découvre aussi des objets poétiques comme la carte du ciel terrestre de Corbeil-Essonnes, que j'ai beaucoup aimé personnellement.
Qui a été faite par Aletheia, nom d'artiste Émilie Garneau, qui est la même qui a fait la playlist de 5 heures que vous aimez. Donc, c'est l'occasion de lui rendre hommage.
Ah bah oui, vraiment. Et puis il y a Jürg Kriengboul, le peintre suisse aussi, intérieur algérien notamment.
Oui, qui est un tableau absolument magnifique, qui est mis en regard de photographies plutôt d'extérieur dans des bidonvilles. Et là, on voit cet intérieur qui est vide, intérieur d'une roulotte très, très sommaire, très spartiate. Et on essaye, à travers cette œuvre, de se représenter ce que ça pouvait être que les conditions de vie de ces ouvriers qui venaient reconstruire la France.
J'ai aussi découvert dans l'exposition permanente du musée un groupe de rock de 82, les Rocking Babouches. Ça m'a beaucoup réjoui. Et un petit mot peut-être sur les prochaines expositions qui auront pour thème migration et climat, cinéma et migration, le corps des femmes.
Tout à fait, on continue notre exploration de grands sujets de société sur lesquels on a l'impression qu'en croisant... la rigueur scientifique et une approche artistique, on peut essayer d'apporter quelque chose au débat et à la compréhension. Donc on ouvrira cet automne l'exposition Migration et Climat, qui sera la première exposition qui part des tréfonds de l'aquarium tropical jusqu'à l'ensemble des espaces du musée pour explorer un peu la manière dont l'homme et le vivant sont impactés par les dérèglements climatiques. Comment est-ce que nous allons habiter notre monde dans les années qui viennent et comment on peut agir aussi sur ces sujets-là. Et puis après, on aura une petite exposition sur les questions de discrimination et jeunesse en Europe. Et ensuite, une exposition sur le cinéma, dont je ne dis rien de plus à ce stade, parce qu'on y travaille encore.
Dix-huit grèves de poubelles que je traîne dans le quartier. Jamais vue plus belle qu'elle dans la cité. Les serveuses du milk bar ou du banana qu'on dépiote dans le noir au cinéma. C'est des trucs pour la toux, des pastilles, des cachous, bonbons de machine à sous, mais elle pas du tout une super nana, une super nana, une super nana, une super nana. Tous les jours je football des boîtes de ronrons. Et comme ces boîtes de tôle, je tourne en rond. Quand je la pêche à la ligne du haut de mon balcon, elle m'emmène dans le parking et sur le béton. C'est le Brésil pour 1000 balles et je croule dans le pantotal. Touche le fond de mes pales, la neige du napalm, une super nana, une super nana, une super nana, une super nana. J'habite en haut de cette tour, la dernière du bloc. Ma fenêtre est bien haute pour par-delà les antennes, au-dessus du cynodrome, des traînées de kérosène, il y a cette môme. Elle marche parmi les détritus, on dirait comme sur les prospectus, ses filles allongées à l'ombre des cactus. Tu vois ce que je veux dire, et pourtant c'est juste une super.
Et le standard de ce soir a été pêché dans la playlist qui accompagne l'exposition. C'est Super Nana de Michel Jonas. Et vous écoutez la 20e heure sur France Inter. Et voici votre choix musical, Constance Rivière.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons.
Les gens qui doutent, Dan Sylvestre. Vous voulez commenter ?
C'est une chanson que j'aime énormément, que j'écoute très souvent, je dois dire, parce qu'on est tellement accablé de certitudes dans tous les sens, de gens qui sont persuadés de savoir, même sur des sujets sur lesquels ils n'ont aucune connaissance. Et toutes ces certitudes-là, assénées, ça crée de la brutalité, de la conflictualité, de l'impossibilité à communiquer, à dialoguer. Moi, j'ai l'impression que... Je doute tout le temps et que ça m'empêche pas d'avancer, de comprendre le monde. Enfin, que le doute est quelque chose qui est une force aussi. C'est pas, je sais pas. J'ai beaucoup évolué dans des milieux qui étaient des milieux de pouvoir où l'assurance était la chose la plus valorisée. Et je crois que le questionnement et le doute sont aussi des manières d'avancer, peut-être plus justes et plus humaines dans un monde qui est compliqué.
Vous dites d'ailleurs que c'est ce qui vous a plu dans la littérature par rapport au milieu politique, c'est que c'était blanc ou noir, et là d'un coup vous étiez enfin dans une zone qui acceptait le gris.
Tout à fait, je pense que, en tout cas la littérature en l'écrivant, elle me permet de cheminer autrement dans les complexités du monde, et la littérature aussi bien sûr en la lisant. Moi ce que j'aime dans la littérature, je dois être honnête, c'est pas forcément les romans les plus drôles, c'est les romans qui vont explorer les noirceurs de l'âme humaine, mais parce que c'est à cet endroit-là aussi qu'on doit essayer d'aller chercher, à la fois en dehors de nous mais aussi en nous-mêmes.
Par exemple, il y a un roman qui vous a marqué comme ça ?
Il y a un roman qui m'a beaucoup marqué récemment, qui s'appelle Confiteor de Rome Cabré, sur l'histoire d'un petit garçon qui revisite son histoire familiale espagnole, et partant des troubles en fait dans le passé de l'histoire de son père, il va revisiter un demi-siècle d'histoire européenne traversée par les tragédies, et il remonte même jusqu'à l'Inquisition. Et c'est un très grand roman sur le mal.
Il y a un livre d'ailleurs que vous avez choisi de faire découvrir aux auditeurs dans l'émission, c'est « Traverser les forêts » de Caroline Hinault aux éditions du Rouergue.
Oui, alors c'est un livre qui est vraiment que j'ai découvert presque par hasard en quelque sorte, qui était dans la sélection du prix littéraire de la Porte Dorée qu'on remet chaque année et qu'on vient juste de remettre. Je dois dire que c'est pas le premier que j'ai lu dans cette sélection, mais alors j'ai été complètement bouleversée. C'est un livre sur la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, avec trois femmes qui se retrouvent perdues dans la dernière forêt primaire d'Europe. Et il y a à la fois toutes les questions dures sur les migrations, mais il y a aussi le rapport à cette forêt, à ces arbres entremêlés, ce qu'on peut faire. C'est un roman qui va loin dans le noir. D'ailleurs, à un moment, elle dit est-ce que c'est toujours la violence qui triomphe, y compris en nous ? C'est une question qui est une question difficile quand même. Mais elle travaille aussi sur l'arbre comme presque un symbole de ce que la lecture et l'écriture peuvent être, un endroit où on va prendre les particules du monde et essayer de les transformer en oxygène.
Mon nom, c'est Fred Wiseman. J'ai fait les films documentaires depuis 1966. J'ai tourné 46 films. La plupart de ces films sont des grandes institutions qui existent dans toutes les sociétés. La plupart de mes films sont tournés en Amérique et mon vrai sujet, c'est la vie contemporaine américaine.
Frédéric Wiseman, le réalisateur qu'on entend en 2023 dans une interview par Avril Film, réalisé dans le cadre du dispositif lycéen et apprenti au cinéma. Constance Rivière, votre père vous a présenté ce cinéaste à l'âge de 17 ans parce qu'il tournait un film à la Comédie-Française où travaillait votre père à l'époque. Et grâce à lui, vous êtes partie aux États-Unis et vous êtes devenue fille au père à Boston chez des amis à lui.
Tout à fait.
Vous voulez dire un mot sur lui parce que vous avez consacré un récit à votre rapport à lui et votre thèse.
Oui, alors
votre mémoire.
Un mémoire de maîtrise. C'est un livre un peu étrange parce qu'il a comme une espèce de double naissance. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire des romans, j'ai pas osé le dire à mon père. Et puis il est décédé sans que j'ai pu lui en parler. Et c'est resté quelque chose comme une espèce de blessure ou de souffrance un peu à vif. Et un jour, je me suis souvenue, quand il avait lu mon mémoire de maîtrise sur Frédéric Wiseman, qui m'avait dit « ça, il faudra que tu en fasses un livre un jour ». Et tout d'un coup, je trouvais comme une espèce de moyen de retisser ce lien qui n'avait pas été créé du temps de son vivant à travers cette figure de Frédéric Wiseman qui, à travers ses films qui sont incroyables, c'est-à-dire qu'il va regarder comment vivent les hommes et les femmes, leur rapport aux institutions. Et pour moi, qui depuis 20 ans travaillais dans des institutions publiques, c'était l'occasion à la fois de tenir cette promesse muette faite à mon père, mais aussi d'aller creuser ce rapport aux institutions publiques et de répondre à une question qui est très difficile, je trouve, c'est comment est-ce qu'on fait pour ne pas être indifférent, comment on survit sans être indifférent et comment on trouve aussi cette capacité à regarder le monde sans s'écrouler, parce que ne pas être indifférent, si on voit tout ce qui se passe dans le monde, enfin, toutes les 4 secondes, il y a une personne qui meurt de faim dans le monde, toutes les 7 minutes, il y a une femme qui est violée en France. Enfin, dire, si on est écrasé par cette réalité-là, on ne peut plus avancer, on ne peut plus vivre. Mais en même temps, si on ne la regarde pas, on est dans une forme d'égoïsme qui nous fait passer à côté de notre propre humanité.
Alors comment vous avez réussi à trouver cette distance juste aux choses ?
Je ne sais pas, c'est l'histoire de toute une vie, je ne sais pas. Je passe mon temps à chercher cette distance, à me rapprocher parfois d'un endroit où l'émotion risque de me submerger et à d'autres moments à me mettre dans une sorte de carapace qui me coupe de ces émotions-là pour pouvoir faire des choses. Et voilà, c'est des allers-retours incessants.
Le livre, pour les auditeurs qui seraient intéressés, c'est « La vie des ombres ». Et il y a une autre rencontre qui fut importante pour vous, c'est celle de votre prof de français de seconde, qui vous a montré l'importance du travail.
Oui, Monsieur Duchâtel, qui était mon professeur de français et de grec d'ailleurs aussi et de théâtre, je crois. Enfin,
et de cuisine, voilà. Et de cheval.
Et je suis arrivée. Moi, je venais d'un collège où j'avais une forme de facilité scolaire et je suis arrivée au lycée. Où je me suis dit, bon, ben voilà, je continue, j'avance. Et en fait, tout était difficile. J'avais pas forcément les codes pour faire bien une dissertation. Et lui, d'une part, il m'a fait confiance. Il m'a fait lire énormément. Et il m'a montré qu'en travaillant, on y arrivait, mais qu'en travaillant surtout. C'est-à-dire que travailler, c'est pas juste bachoter, c'est lire, comprendre, poser des questions, s'intéresser. Et cet éveil à une forme de curiosité, je lui en suis très reconnaissante.
Vous êtes entrée à l'ENS, c'est là que vous êtes inscrite au département cinéma ?
Tout à fait.
Et vous avez tourné un court-métrage, Banlieue, sur l'immigration turque. Donc, c'était déjà des questions qui vous animaient.
Vous avez retrouvé des choses, ouais. J'ai tourné ce documentaire il y a 20 ans, je crois. Oui, ça doit être ça, à peu près, 2003-2004, avec deux amis italiens, Federico Ferrone et Francesco Ragazzi, sur l'immigration turque en banlieue. Et ce qui nous avait intéressés, au-delà de l'envie de faire un film ensemble, c'était cette idée d'aller interroger le rapport entre des espaces qui ne se parlent pas et qui ne se connaissent pas. Et pour nous, le cinéma, sa vocation, c'était ça, c'était d'essayer de créer des ponts de connaissances là où il n'y en avait pas. Donc là, on a travaillé dans cette banlieue Montreux-Foyeux, Bayonne, où il y avait en bas la ville assez cossue et en haut Surville, la banlieue populaire immigrée, celle où en fait les travailleurs venus reconstruire une partie de la France s'étaient installés et puis avec une frontière comme ça. Donc voilà, on a fait ce film.
Merci beaucoup Constance Rivière.
Merci.
Je rappelle que l'exposition « Banlieue chérie » est visible au Musée d'histoire de l'immigration à Paris jusqu'au 17 août. Pour ceux qui ne pourront pas y aller, un catalogue coédité par le Palais de la Porte Dorée et Muséo Éditions accompagne l'exposition. Et il y a aussi la sortie de la revue « Monde et migration » intitulée « Banlieue pop ». Des rencontres et soirées festives sont prévues. La programmation est accessible sur le site du musée. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Louise Morfouas et Franck Olivard. À la programmation musicale, Judith L'Orphelin, à la technique, Gaspard Guy Bourget.